Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est un petit matin glacé qui va se lever. Le cercle de mes pensées ne me laisse pas de répit. J'entends des pas dans l'entrée. N'éteins pas la lumière, lui dis-je. J'ai une putain d'histoire à te raconter. Il fait encore nuit. C'est l'histoire de deux sœurs. Je les appellerai M. Elles sont au bord de l'abîme. Elles ont dû se réfugier dans la vallée, car malheureusement, la chasse a commencé. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour. Jolie introduction.
Merci. Voilà, pour ceux qui sont adeptes et ceux qui ne sont pas, avec ce petit texte, j'ai tenté de relier les 9 romans que vous avez écrits. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e qui s'appelle La Chasse aux éditions XO. Alors, je le disais hors antenne, c'est un roman haletant, au suspense éprouvant, dirais-je. Et j'ai envie de vous demander, bien que je l'ai pensé, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, vous êtes sans doute à la fois un sorcier, un médium et un visionnaire.
Alors, j'ai pas la prétention d'être un médium. Hein. Dès que ça existe. Non, c'est vrai que des fois, je tombe assez près de...
Oui.
De l'actualité, c'est, je sais pas pourquoi, sans doute un mélange d'intuition, d'information, de curiosité.
Oui.
Mais c'est vrai que, comme pour la vallée, avec la chaise, je suis pas tombé loin, oui.
Oui, oui, c'est vrai. Ben, l'intuition, vous savez, c'est une force qui est en nous et qui ne demande qu'à être bien développée. Donc, c'est peut-être votre cas et sans doute un fin observateur de l'actualité, de la vie et du monde aussi, et de notre pays qui est un petit peu brinque-ballé en ce moment. Alors, la chasse, on retrouve notre ami Martin Servaz, toujours avec grand plaisir. Avec ses deux acolytes, la franco-sino-marocaine Samira Chen et le lieutenant Vincent Espérandieu. J'adore le nom d'Espérandieu, je trouve ça sympa.
Alors, oui, une parenthèse rapide, c'est un nom que j'ai trouvé en fait sur la route, je crois que c'était entre Mont-de-Marsan et les Pyrénées ou quelque chose comme ça, il y a... Et tout d'un coup, j'ai vu un panneau parce qu'il y avait un village qui s'appelait Espérandieu.
Ah oui.
Je me suis dit que ça ferait un très beau nom de personnage. Voilà comment il est né.
C'est super sympa. Alors bien sûr, l'action se passe toujours entre Toulouse et l'Ariège. On ne va pas pouvoir tout raconter parce que comme d'habitude, on va tourner un petit peu autour parce qu'il ne faut pas tout dévoiler. Ils vont être affublés d'un nouvel élément, Raphaël Katz, qui on s'apercevra par la suite... Ce garçon a quelques problèmes et va jouer quand même un rôle important et déterminant dans l'histoire. On a laissé le commissaire Stellin et on se retrouve à un commissaire Chabriac, colérique, énervant, nerveux, antipathique au possible et qui s'en prend plusieurs fois à Martin Servaz et on découvrira par la suite pourquoi. Alors cette chasse, elle commence une nuit d'octobre 2020. Le confinement, le deuxième confinement n'est pas loin parce que je tiens à préciser que l'action, le côté roman, vous y avez aussi inclus des faits réels, ayant existé. Donc on est à la veille du deuxième confinement. Et puis une voiture va renverser un jeune homme, un jeune noir. Et puis là, tout a commencé. Alors on peut peut-être dire que ce malheureux garçon a sur la tête une tête de cerf. Et là, tout va commencer, tout va basculer. L'enquête va débuter. Voilà.
Oui, alors il faut pas, sans trop en dévoiler, on peut de manière que ce jeune homme qui est renversé par une voiture par une froide nuit d'octobre sur une route d'Ariège, une route qui aurait dû être déserte évidemment parce que il est tard, on est dans la forêt, on est
en couvre-feu,
très peu peuplé. Ce jeune homme, il est nu déjà, il a une sorte de capuchon de peau avec des bois de serre sur la tête et il a gravé sur la poitrine le mot justice.
Oui.
Et Martin Servaz, sans trop spoiler, accompagné, comme vous l'avez dit, de Samira Chung et de Vincent Espérandieu, va assez rapidement découvrir qu'il s'agit d'un délinquant qui a été libéré pour vice de procédure.
Oui. Accusé de viol. Accusé de viol.
Délinquant avoir été traqué dans cette forêt. Mmh.
Tout à fait. Alors, on s'aperçoit au fur et à mesure du livre que la société est un peu au bord d'explosion, et notamment Toulouse, il y a des manifestations, il y a des heurts, mort aux flics, l'anti-flics, flics bâtards, etc. Il est obligé de se rendre au Mirail, où là, il va se prendre tout un tas de trucs sur la tête parce qu'il rend visite à la famille de ce jeune homme, et il est bien sûr Sarr, c'est ça, je cherchais son nom de famille, Sarr. Moussa Sarr, il est très mal accueilli. On est en plein, je disais, deuxième confinement, il y a le couvre-feu, et puis on a l'impression que Toulouse est un petit peu à feu et à sang, et que la société finalement va mal, et l'enquête va se révéler assez difficile. On va s'apercevoir, ça on peut le dire sans trop dévoiler de choses, qu'il y aura peut-être des fonctionnaires de police impliqués, mais ça on verra dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Et du reste, c'est là où est toute c'est là où Servaz va se retrouver dans une position très compliquée, très délicate, c'est qu'il est amené à enquêter sur ses propres collègues.
Et oui.
En même temps, il veut pas que l'enquête lui échappe parce que normalement elle devrait revenir à la police des polices,
ouais.
Hein, l'IGPN. Et il a pas du tout envie que cette enquête lui échappe,
ouais.
Il a envie de la poursuivre, donc. Donc il est dans une situation très compliquée.
Oui, avec un commissaire divisionnaire Chabriac, je disais, qui est coléreux et colérique, qui n'arrête pas de hurler, il n'arrête pas de lui dire, mais de toute façon, vous prenez pour qui? C'est moi qui décide, je veux tout savoir, au mot près, il le convoque sans arrêt, bref. C'est pas facile, et puis bon bah il y a Katz aussi qu'il faut former, qu'il faut aussi un petit peu surveiller. Et puis dans sa vie personnelle, c'est pas simple non plus, parce que sa compagne Léa est médecin pour les enfants, et elle lui dit que peut-être elle pourrait partir pour le Burkina Faso parce qu'on lui a fait une offre. Donc tout ça s'en mêle, et eh bien ça devient de plus en plus difficile.
Oui, mais après, on va pas trop en dire, c'est toujours
l'exercice
avec ce genre de roman, ce genre de thriller, qui est aussi quand même beaucoup fondé sur les surprises, les rebondissements. Moi, j'adore entraîner le lecteur dans une direction, il croit qu'il tient la vérité, et puis d'un coup, le sol se déroule sous ses pieds, et il s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. J'adore ce jeu du chat et de la souris, donc il est difficile
de
dévoiler trop de choses. Mais,
la fin, je peux le dire, on peut le dire, est magistrale. La fin est magistrale, inattendue. Moi, je vous avoue que quand j'ai lu les dernières pages, j'ai poussé 2-3 fois les cris en disant « Ah, c'est pas possible, c'est pas vrai, je sais que je suis pas la seule ». Franchement, félicitations, parce que vous nous tenez, mais du début jusqu'à la fin, vous nous trimballez. Et alors la fin, elle est magistrale, parce que franchement, inattendue.
Merci beaucoup, ouais, j'en suis ravi. Oui, j'essaie de surprendre mon lecteur jusqu'à ma lectrice jusqu'à la dernière page. Ça fait partie des règles du genre. C'est un genre où il y a des contraintes, où il y a des règles à observer. Moi, j'adore la contrainte parce que sous la contrainte est toujours très créative. Elle amène toujours à se dépasser. Et c'est un genre, voilà, avec ses codes. Et en même temps, il faut toujours essayer d'y mettre quelque chose en plus.
Oui. Alors, vous avez fait, je trouve, la part belle ce coup-ci au journalisme, dirais-je, avec cette journaliste, moi, que j'ai adorée, Esther Koppelman, qui est de la Garonne, journaliste un peu paumée, un peu solitaire, qui mange chez Samy, là, ses kebabs, mais finalement qui va jouer aussi un rôle important. Le personnage, malgré tout, ce côté gouailleur, elle fume comme un pompier, elle mange n'importe quoi, mais finalement, elle est attachante, cette Esther Koppelman.
Je pense qu'elle est attachante aussi à cause de ça. Oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce personnage, à l'imaginer.
Ouais.
Je me suis inspiré de quelques journalistes que je connais, et puis après j'ai évidemment fait tout un travail d'imagination par-dessus. Elle est attachante aussi par ça, parce que finalement c'est quelqu'un de profondément droit et honnête, hein, il faut bien le dire. C'est quelqu'un d'une grande droiture, d'une grande honnêteté intellectuelle, d'une grande curiosité aussi. Ingman Kull disait qu'il y a les journalistes qui déterrent la vérité et ceux qui remettent de la terre par-dessus. Elle fait partie de la première catégorie, évidemment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui respecte pas du tout le politiquement correct et ce carcan dans lequel on est enfermé. Comme vous l'avez dit, elle fume comme un pompier, elle mange de la viande, elle adore la viande. Ça du reste qu'elle va chez son ami Samy qui tient un kebab, parce qu'il lui dit tu as la meilleure viande de Toulouse. Elle boit aussi, elle picole pas mal. Elle est pas du tout dans le politiquement correct. J'ai trouvé ce personnage très réjouissant de ce point de vue-là.
Oui, oui. Puis très, très attachante. Et puis finalement, elle va un peu aider, hein, sans qu'on en dise trop. Je sais bien que Martin Servaz, il pense des choses, il dit des choses, mais je ne peux pas m'empêcher, je sais que je ne suis pas la seule non plus, pour en avoir discuté autour de moi, qu'au travers de Martin Servaz, il y a des choses quand même qui vous agacent, qui vous hérissent, que la société est bancale, que l'on fait un petit peu n'importe quoi, que la justice n'est pas rendue. Tout ça, je sens que ça vous... que ça vous pèse et que d'une certaine façon aussi, au travers de Mater Servaz, la façon de traiter aussi un petit peu l'actu au travers du roman, entre la fiction et la réalité, on retrouve aussi du Bernard Minier, forcément.
Alors, je dirais pas que ça m'agace ou que ça me pèse. Enfin, ça me pèse, oui, évidemment, comme tout le monde. Mais je dirais plutôt que moi, je m'interroge. Je m'interroge sur le devenir de mon pays, sur le devenir de notre société. Est-ce qu'on fait encore société, d'ailleurs? On a de plus en plus de mal à dialoguer, on est de plus en plus déchiré. Cette société est de plus en plus violente à cause, justement, de tous ces gens qui n'arrivent plus à communiquer. Donc, en fait, je me pose des questions. Et je me pose les mêmes questions que mes lecteurs se posent, au fond. Je me mets pas au-dessus d'eux, je suis pas un donneur de leçons, je déteste ça, les donneurs de leçons. On sait très bien que là où il y a un donneur de leçons, en général, il y a un imposteur. C'est le cas la plupart du temps, sinon tout le temps. Dès que vous voyez quelqu'un qui donne des leçons, si vous grattez un peu, vous allez vous apercevoir que derrière...
Il y a rien, c'est vide.
Derrière boutique est pas terrible.
On est d'accord.
Donc je veux pas donner des leçons, non, je me pose des questions, bien entendu, sur l'avenir, on s'en pose tous. Et j'apporte quelques éléments d'information supplémentaires, quelques petites clés, parce que, évidemment, avant d'écrire ce roman, j'ai enquêté. J'aime bien une comparaison que je fais souvent, qui est un peu, évidemment, toute proportion gardée, c'est que il y a deux théories de la littérature. Il y a la théorie de la littérature selon Flaubert, qui suppose que le narrateur disparaisse complètement du roman, qu'il s'efface complètement de son œuvre. Et puis il y a la théorie selon Balzac où au contraire l'auteur a le droit de déborder, d'apparaître un peu dans ses pages avec ses colères et ses théories sociales. Moi, la plupart du temps, sinon tout le temps, je suis, toute proportion gardée, je le répète, je suis Flaubertien, c'est-à-dire que je disparais derrière mes personnages. Et il faut bien le comprendre, c'est que leurs points de vue sont leurs points de vue et pas les miens. Le point de vue d'un certain général, c'est pas mon point de vue.
ça, j'en doute pas.
et puis, il y a d'autres moments où je suis un peu balzacien. En tout cas, dans ce roman-là, où je laisse apparaître quelques petites choses de l'auteur. Voilà. C'est quand même c'est des moments rares. La plupart du temps, le point de vue de la troisième personne, et c'est le point de vue du personnage, pas le mien.
Alors, il y a aussi un personnage, je vous dirais deux personnages importants aussi dans ce livre, mais dans la plupart. Mais là, ça m'a marqué plus que les autres fois. C'est l'Ariège, la façon dont vous décrivez les montagnes, les ruisseaux, la campagne, le petit matin qui se lève, même la pluie qui tombe, c'est romantique et on a envie d'être bien couvert sous cette pluie. Les petits villages, le château du général, et on n'en dira pas plus. Même Toulouse, j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait encore plus de cœur à découvrir. J'ai envie de dire notre belle région, parce que comme vous le savez, moi je suis aussi de ce pays-là.
Plus de cœur, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours aimé les descriptions de choses comme ça. Je trouve que j'en fais de moins en moins.
Ah bon?
Effectivement, l'Ariège était présente. Alors déjà, c'était un département que je n'avais pas tellement exploré dans les romans précédents. Alors que c'est aussi un département pyrénéen, évidemment. Mais c'est surtout l'idée, c'est que il me fallait un département. Déjà, je voulais que ça se passe dans la forêt. Ça se passe souvent dans la forêt, dans mes romans, il y a beaucoup de forêts.
Beaucoup.
Il y a une forêt dans la vallée,
il y en a partout, une
grande forêt, parce que évidemment on ne peut pas se livrer à la chasse à l'homme comme on chasse le faisan ou le lapin de Garenne, quoi, à côté du village.
Bien sûr.
On est obligé d'être un peu tranquille. Et donc il fallait que... Et l'Ariège, c'est le département le plus boisé d'Occitanie. D'une part, et c'est aussi le moins peuplé. Il y a plein de zones assez désertiques en Ariège. La plus grande ville, c'est pas mieux qu'à 15 000 habitants, comparé aux millions d'habitants de Toulouse, évidemment.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir. Donc, il me fallait ce côté-là, et c'est aussi un département d'une beauté terrassante.
Ah oui, c'est très très beau, c'est très très beau. Oui. Aux alentours de Saint-Giron,
il y a plein d'endroits dans l'Ariège, vers la Dent d'Orlu, vers Foix,
Saint-Lizier, Foix, tout ça.
Il y a le nord de l'Ariège qui est un peu plus sec, un peu plus. Et puis il y a le sud, avec plus on se rapproche des montagnes, avec ses vallées encaissées, ses forêts, ses rivières,
c'est très beau.
C'est magnifique.
Oui. Alors pour en revenir au livre, il y a aussi un autre personnage, moi, qui m'a un peu interloqué, un peu surpris. Je l'imaginais, et la façon dont je l'imaginais, je ne sais pas si c'était tout à fait juste. C'est la préfète de la région.
Oui.
C'est un personnage alors que j'ai trouvé très étonnant, assez sévère, outrancière, énigmatique, et puis qui essaye de séduire aussi, qui est dans la séduction, quelqu'un à poigne, mais finalement qui s'est prise entre guillemets un peu d'affection pour notre ami Martin, et finalement grâce à elle, il va peut-être pouvoir faire les choses un petit peu à sa façon.
C'est ça. Alors c'est peut-être pas uniquement de l'affection, hein, comme on le comprend vers la fin.
Oui.
C'est peut-être aussi, effectivement, il y a un rapport de séduction.
Oui. Oui.
Mais parce que je voulais ces personnages. Aujourd'hui, on le range tellement dans des catégories, dans des genres aussi, il faut bien le dire. Dans des c'est pas possible. Moi, la littérature, ça parle pas de catégories, de genres, de catégories socio-professionnelles. Non, la littérature, ça parle d'individus.
Mm-hmm.
Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'auteur, c'est l'humain, c'est la vie, c'est la complexité des individus et du monde.
Mm-hmm.
Dostoïevski disait qu'il cherchait dans l'homme, c'est l'homme. Mm-hmm. Ben moi, c'est pareil, ou la femme. Et donc je vois pas pourquoi une femme serait pas dans un rapport de séduction également.
Tout à fait.
Et là en plus elle est dans un rapport de pouvoir et de séduction, c'est qui est quand même très tangent.
Oui.
Mais voilà, j'aime bien bousculer un peu tous ces a priori, préjugés qu'on peut avoir aujourd'hui.
Toutes les choses installées.
Et puis le roman c'est aussi la guerre aux clichés, donc on a ce personnage de préfète qui effectivement abuse peut-être un peu de son pouvoir, qui est souvent dans un rapport de séduction.
Ça doit exister quelque part, un petit peu, de temps en temps, rarement, mais ça doit exister.
Bien sûr que ça doit exister. Évidemment que ça existe. C'est pas l'apanage des hommes, ça, bien sûr. Et donc, j'aime bien bousculer les codes, j'aime bien remettre en question les certitudes, sans prétention aucune. Le roman, c'est aussi un peu la maïeutique de Socrate, on gratte derrière les certitudes de chacun.
Bien sûr.
On gratte derrière les évidences, on va voir un peu ce qui se cache derrière. Le roman, justement, il faut se méfier des apparences. Et derrière les apparences, il y a toujours quelque chose d'autre.
Oui.
Il y a toujours des arrière-pensées.
Alors, il y a toute une autre palanquée aussi de personnages. Il y a des grands bourgeois, il y a un banquier aussi. Il y a le gourou noir, il y a un squat quelque part dans Toulouse. Alors, on fait tout ce qu'on veut, etc. On fume, on boit, bref, il y a ce personnage. Il y a aussi la banlieue de Toulouse qui est aussi un personnage à part entière. Hein, les Isards, je le disais, le Mirail, où là, c'est très compliqué. Où finalement ce sont des zones de non-droit aussi. Vous êtes appuyé également, je suppose, sur des professionnels, des flics, pour décrire la chose.
Alors, oui. Je veux préciser quelque chose concernant le Mirail, c'est que le Mirail, c'est pas du tout une zone de non-droit en permanence. Hein.
Oui, bien sûr.
Et voilà, c'est ça aussi l'ambiguïté, et l'ambiguïté fait partie de la littérature.
Mmh.
C'est que le Mirail, c'est aussi un quartier avec plein de gens formidables. Vous pouvez vous promener. Chaque année, il y a un festival de polar qui est organisé. Moi, j'y ai été plusieurs fois et il y a plein d'activités culturelles, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, à côté de ça, il y a le trafic.
Bien sûr.
Il y a le trafic aux Isards, au Mirail. Il y a aussi le salafisme. Il y a, et souvent, les deux sont mêlés.
La pauvreté. La pauvreté.
Il y a la pauvreté, il y a des difficultés. Il y a des gens qui veulent travailler, qui veulent avancer. Et puis, il y a d'autres, au contraire, qui plombent tout ça. Mais ce n'est pas spécifique au Mirail. Je veux dire, c'est vraiment, aujourd'hui, on le voit bien. On voit ce qui s'est passé à Avignon. On voit ce qui se passe à Lille, à Tourcoing, à Nantes, à Bordeaux. Enfin, c'est partout.
C'est partout.
Il y a des gens dans ce pays qui voudraient faire transformer la France en un narco-État.
Complètement.
Un peu comme le Mexique ou la Colombie. Et il faut se battre contre ça, bien entendu.
Mais à un moment donné, d'ailleurs, Martin, qui est côté au Mirail, dit ça pourrait être un bel endroit pour vivre s'il n'y avait pas tout ça. Il se fait la réflexion. Il regarde.
Ben oui,
il regarde.
C'était un bel endroit pour vivre. Et aujourd'hui, c'est très difficile dans certains bars d'immeubles, ou qui sont sous le contrôle des dealers. Vous avez des appartements nourris. Avant, il y en avait un ou deux. Maintenant, il y en a des dizaines. Les gens qui ont travaillé rentrent le soir. Ils sont contrôlés par les dealers qui font la loi. Et ça existe. On ne va pas se mettre la tête dans le sable. Donc, il faut se battre contre ça. Il faut absolument le dénoncer. Mais moi, je ne suis pas là dans la dénonciation. Moi, je suis là dans le constat. En fait,
oui,
je
montre
des faits, je donne des faits, je donne des clés. Chacun se fait l'opinion qu'il veut. Et puis surtout, moi, je suis là pour raconter une histoire. Mais cette histoire, elle est... la matière du récit, chez un auteur, elle ne procède pas de la pure imagination. Elle vient d'une réalité qu'elle sublime, qu'elle prolonge.
Bien sûr. Alors, il y a un personnage aussi qui est récurrent maintenant, qui travaille avec Martin et Vincent. Moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'elle est haute en couleur. C'est Sarmi Rachen, franco-sino-marocaine, qui a toujours des tenues extravagantes, qui est maquillée à outrance, qui a des grosses chaussures, des trucs moulants, des trucs de toutes les couleurs, qui a le cheveu noir, qui a pas sa langue dans sa poche, qui est crash, qui dit les choses. Et bien souvent, elle a bien souvent aidé Martin. Elle-même s'est parfois trouvée aussi dans des situations très difficiles. T'as un personnage aussi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On l'aime ou on la déteste, Samira Cheng.
Alors, je pense sorte que tout le monde l'aime, moi, notre
oui.
Mère Chang.
Ouais.
Elle est tellement attachante. Elle, ouais. elle est, effectivement, elle est cash.
Ah oui.
Elle est là depuis le premier roman, depuis Gassé.
Oui. Et oui.
Et comme Vincent Espérandu, l'autre adjoint de Servaz.
Oui.
Et c'est au fond, c'est aussi l'incarnation de la droiture, ce personnage-là.
Complètement.
C'est qu'elle dit ce qu'elle pense.
Mmh.
Et elle fait ce qu'elle dit aussi.
Et oui.
Et ça, de nos jours, c'est quand même de plus en plus rare.
Et oui. Tout à fait. Je fais ce que je dis ce que je pense.
Mmh. Exactement.
C'est ça. Alors, comment vous est venue l'idée de cette chasse? Parce que c'est le titre du roman, La Chasse. On le dit, ce jeune homme donc qui est renversé par une voiture, c'est un jeune homme noir qui est affublé donc d'une sorte de masque, de serre. Comment vous est venue l'idée de la chasse? Parce que bien sûr, on peut pas parler du reste parce que sinon on dévoilerait l'intrigue du livre. Comment voilà, c'est né comment cette idée?
C'est né avec cette première scène en fait, cette scène de ce jeune homme. Qui est poursuivi dans la forêt, qui a cette tête de cerf, enfin ce capuchon en peau qui ressemble à une tête de cerf
oui.
sur la sienne, qui a ce mot justice sur la poitrine, qui est nu et dont on comprend très vite qu'il fuit quelque chose ou quelqu'un dans cette forêt, c'est venu de cette et qui finit et en voulant s'échapper traverse la route et est renversé par une voiture.
Oui.
C'est venu de là. Au départ, je savais pas s'il était blanc, noir.
Mmh.
Au départ, j'avais juste ce jeune homme. Je savais que c'était un délinquant. Je savais que
oui, mais justement, il est né comment? Il est né comment l'idée de ce tête de cerf sur la tête? Voilà, c'est la genèse.
Je sais pas, c'est un flash, c'est une image
d'accord,
que j'ai.
D'accord.
Je vois cette scène avec cette créature mi-homme, finalement, mi-animal, mi-cerf.
Mm.
Le fait est que, après, j'ai réfléchi un peu à pourquoi cette image-là
oui.
plutôt qu'une autre.
Oui.
Et je me suis rendu compte que puisque c'est une chasse à l'homme, mais enfin qui imite une chasse au cerf, finalement.
Oui, c'est ça.
Et je me suis aperçu que la chasse au cerf, c'est souvent la chasse à court.
Oui.
Et la chasse à court, c'est pratiqué par une certaine catégorie de personnes, pour
mm-hmm,
le coup,
mm-hmm.
qui sont des gens assez traditionalistes, conservateurs, d'une certaine bourgeoisie ou d'une certaine société.
Mm-hmm.
Et je me suis dit que finalement, ça disait quelque chose aussi des gens qui étaient derrière tout ça.
Oui.
Et on va pas trop dévoiler de.
Non, non, non.
Mais roman, mais effectivement, on a, dans le roman, on peut le dire, des gens qui non seulement veulent rendre la justice eux-mêmes, mais
oui.
qui veulent aussi garder la France comme elle était il y a 30 ou 50 ans.
Mmh. Bah, justement, dans votre roman, il y a le présent, mais pour expliquer certaines choses, certains personnages, on va un petit peu dans le passé, et notamment dans le passé, entre autres, en Centrafrique. Et ça, c'est des moments très importants, ça fait partie aussi de notre histoire. Je suppose que ça a fait lieu aussi de recherches. Il fallait expliquer certaines choses pour expliquer le personnage d'un certain général.
Oui, ce fameux militaire.
Mmh.
C'est évidemment, il y a beaucoup de documentation derrière, il y a beaucoup
oui.
d'investigations sur. Surtout que je cite des faits qui sont réels,
oui, oui,
qui sont
fait.
Passés,
fait.
Des affaires de viol en Centrafrique
mm-hmm.
Par des soldats, sachant quand même que le viol dans ces régions-là est une arme de guerre, hein, c'est-à-dire pratiqué absolument par tout le monde.
Oui.
Et puis il y a d'autres scènes, il y a une scène très très courte en Afghanistan sur un traquenard dans lequel était tombée l'armée française,
oui.
il y a d'autres scènes comme ça, parce qu'on a ce personnage de militaire qui lui a fait pratiquement toutes les campagnes, toutes les opérations.
Il est bardé de décorations.
Et je me suis inspiré là aussi de plusieurs hauts gradés réels, mais après le général Thibault de Nadie de Ribes
voilà.
n'existe pas évidemment, c'est une créature de fiction.
Bien sûr.
Néanmoins, comme vous l'avez fait remarquer, on a dans ce roman un personnage de général qui rêve de rétablir l'ordre, lui avec quelques autres, et le roman est sorti le 1er avril, et quelques jours ou quelques semaines
et
plus
oui.
tard, on a vu une tribune de généraux
dans les valeurs,
actuelles.
Incroyable, incroyable.
Et oui, et l'an dernier, j'ai écrit ce roman et publié ce roman qui s'appelle La Vallée, où j'imaginais une population confinée,
incroyable.
Avec les enfants qui n'allaient plus à l'école, les parents qui étaient au chômage technique, et puis au moment où le roman devait sortir, on s'est nous-mêmes retrouvés confinés.
Ah oui, et c'est pour ça que je vous dis, sorcier, médium ou visionnaire.
Je crois que c'est juste de l'intuition et puis un peu la manière de capter l'air du temps.
Mais je vous dis, le pouvoir de l'intuition, c'est une force en soi, hein, que l'on développe ou qu'on ne développe pas chez vous. Je pense qu'il est fortement
qui vient aussi du fait que de la curiosité et de l'information, et du fait que je me tiens au courant de beaucoup de choses.
Oui.
Voilà. Et donc,
Mais là, ces jours-ci, permettez-moi de vous dire, j'ai beaucoup pensé à vous, et j'avais terminé le roman depuis un moment, et je me suis dit, mais bon sang de bonsoir. Tout ça donne, entre guillemets, raison à Bernard Minier, en tout cas au livre avec les événements qui se passent. Bien sûr, je suis pas la seule à poser la question, mais voilà, je suis une petite curieuse. Est-ce que dans le prochain roman, on retrouvera sans doute dans un an, à peu près, c'est à peu près dans ces moments-là, est-ce qu'on va retrouver Martin Servaz?
Alors, pas dans le prochain. On le retrouvera, évidemment.
Oui.
Mais dans le prochain, on va faire une petite pause avec Martin, parce que j'ai envie d'introduire un nouveau personnage.
Oui.
Qui sera peut-être récurrent, peut-être pas, on verra. Mmh. Il est accueilli par les lecteurs, et aussi, si moi j'ai envie de... Et c'est une jeune femme, enfin une femme entre 30 et 40, qui est policière, mmh. et qui est aussi espagnole. Donc c'est une policière de Madrid.
Mmh.
Et on va donc passer de l'autre côté, mais qui sera quand même amené à aller dans le nord, c'est-à-dire dans les montagnes, dans les Pyrénées.
Alors, d'accord.
Ouais, moi, c'est mon décor, c'est mon territoire. Mais côté versant espagnol, que j'ai pas encore exploré, et que je connais bien en plus.
Bon.
Je connais très très bien, j'ai des amis par là-bas. Je connais très bien ces vallées des Pyrénées aragonaises, des Pyrénées catalanes, qui sont absolument sublimes.
C'est très beau, oui.
Et j'avais envie de... Et puis je suis aussi... un grand fan de cinéma espagnol, de séries espagnoles,
ah oui,
et puis il y a aussi de formidables auteurs de romans noirs espagnols.
Ah oui.
Et comme je parle couramment cette langue, puisque par ma mère j'ai des racines de ce côté-là, et que j'y vais assez régulièrement, voilà, j'avais envie de changer un peu, et je pense que ça, j'ai déjà une bonne histoire en tête, je pense que ça va être intéressant.
Ah, moi je suis fan de flamenco et de l'histoire des gitans espagnols.
Il n'y aura pas de flamenco, parce que moi j'écoute aussi des chansons et de la musique espagnole.
J'aime beaucoup flamenco.
C'est légèrement plus récent et moins folklorique.
Les histoires.
C'est formidable.
Les histoires des gitans espagnols au tout début du 20e, notamment à Grenade, qui vivaient dans les grottes, à Sacromonte. Voilà, j'ai lu un livre très intéressant.
L'histoire espagnole est tellement riche, alors, évidemment.
Tout à fait.
Moi ça sera très contemporain.
Voilà, bien sûr.
Il faut savoir que moi j'ai passé un an en Espagne à l'époque dans les années 80, à l'époque de la Movida.
Oui.
Et quand l'Espagne découvrait la démocratie, mais découvrait aussi le cinéma, enfin renouvelait son cinéma, parce qu'elle avait déjà des metteurs en scène formidables comme Carlos Saura ou comme Luis Buñuel.
Mais d'un coup,
il y a eu des gens comme Almodóvar qui sont arrivés, il y a eu plein de groupes de rock, de musique, etc. Et il y avait cette espèce d'effervescence, d'ébullition. Et moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à ce moment-là, là-bas. Donc c'est un pays que je connais très bien.
Oui.
Et j'avais envie aussi de... Et il y a des paysages extraordinaires.
Oui, c'est très beau.
Des Pyrénées espagnoles avec des villages, des choses comme ça. J'avais envie de cette atmosphère, j'avais envie de changer un peu, et puis c'est exotique sans l'être, parce qu'on reste quand même néanmoins sur mon territoire.
Moi, ça m'a permis, pour conclure, de découvrir une magnifique danseuse flamenco, Lucia Albacin, qui est morte très jeune, à peine 40 ans, qui était une grande danseuse de flamenco. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ça a été de nouveau un plaisir. La chasse aux éditions XO, le 9e roman. Alors, pour ceux qui ne lisent pas Bernard Minier, mais alors ça m'étonnerait. Donc, dans le préambule, bien sûr, j'ai cité les 8 précédents. Glacé, Le Cercle, N'éteins pas la lumière, Une putain d'histoire, Nuit, Sœur, M au bord de l'abîme, La Vallée, et enfin La Chasse. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
Merci beaucoup, plaisir partagé en tout cas.
Merci Bernard Minier, merci infiniment.
Merci à vous.
Et puis je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous, et toujours un plaisir de vous recevoir. Sachez que vous êtes l'éternel invité à ce micro depuis bientôt 8 ou 9 ans. Voilà.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci Bernard Minier. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, à très vite.
Au revoir. Eh bien, quant à nous, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et profitez du printemps. Enfin, printemps un petit peu humide. À bientôt. Au revoir.